Bonjour, autre radio, autre culture, émission également diffusée sur 6e Paris Jazz. Alors nous avons pris la poudre d'escampette une nouvelle fois et nous voici à Saint-Tropez. Et nous nous sommes intéressés donc au capitaine au long cours. Alors j'ai devant moi Laurent Pavidis, qui est historien de la ville de Saint-Tropez. J'ai également à côté de moi le président d'une association qui est une association des capitaines au long cours et qui est monsieur Jean-Louis Prosperini, Souquel. Voilà. J'ai madame Hélène Bernard, qui est une descendante de capitaine au long cours. J'ai monsieur Chazy, également descendant de capitaine au long cours. Et j'ai madame Cèze, qui est aussi petite-fille, arrière-petite-fille de capitaine au long cours. Alors, Laurent, moi, ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est quelle est la place de Saint-Tropez au XIXe siècle et pourquoi autant de capitaines au long cours dans cette ville ?
Alors, ce que les gens pensent, ce que certains médias rapportent régulièrement, c'est que Saint-Tropez, avant, était un charmant petit port de pêche. Alors, c'est vrai qu'il y avait des pêcheurs, il y en avait une centaine à la fin du 19e, il y en a encore quelques-uns aujourd'hui, j'espère qu'il y en aura toujours, mais Saint-Tropez était avant tout un port de commerce. Il suffit de regarder ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux port, qui a à peu près une superficie de 4 hectares à 4 hectares et demi, avec un tirant d'eau qui peut atteindre 5 mètres et qui accueille aujourd'hui des yachts qui peuvent atteindre la taille de 40-50 mètres. Si ce port-là existe, c'est parce que Saint-Tropez était avant tout un port de commerce. Et en 1791, s'est créée à Saint-Tropez une école d'hydrographie qui a formé, alors là, très très officiellement, les capitaines. Auparavant, ils étaient formés par la famille et ils passaient un examen à l'amirauté. Mais donc, ils étaient formés, on va dire, de père en fils, avec les mêmes connaissances des parents. Donc, ils répétaient, en fait, le même schéma. À partir du moment où il y a eu une école, ils ont pu être formés par des professeurs, très officiellement. Après, ils partaient passer l'examen à Toulon. Et ils étaient aptes à naviguer sur tous les navires du 19e, aussi bien les voiliers que les grands paquebots, comme ceux des messagers maritimes, par exemple. Et on a comptabilisé, rien que pour le Saint-Tropez au 19e siècle, plus de 320 capitaines. Donc il faudrait ajouter des centaines de matelots, plus tous les capitaines au petit cabotage. Donc Saint-Tropez était avant tout un port de commerce, et c'est ça qu'on veut essayer aujourd'hui de travailler, de faire ressortir cette partie d'identité qui est finalement assez mal connue.
Alors quelle était l'origine de ces capitaines de commerce, de ces capitaines au long cours à cette époque-là ? Ils venaient de quel type de famille ?
Alors en fait, la caractéristique de Saint-Tropez, c'est que 6 hommes sur 10 étaient gens de mer. Ils étaient considérés comme gens de mer, c'est-à-dire qu'ils étaient soit pêcheurs, soit ils travaillaient au chantier naval, soit marins en commerce. Et donc tous d'ailleurs avaient des carrières des fois qui passaient d'une activité à l'autre. Ils passaient du chantier à la pêche, puis au commerce. Bon. Le territoire de Saint-Tropez est très petit, c'est 1000 hectares. Et les trois quarts du littoral, enfin de la commune, la frontière est maritime. Donc la mer était l'échappée évidente, d'autant que le massif des Maures est une barre montagneuse qui était une frontière naturelle. On n'allait pas facilement à l'intérieur de la Provence. Pour se déplacer, on paronnait le bateau et c'était naturellement la mer qui offrait les débouchés, le plus de débouchés pour le boulot, et notamment le port de Marseille qui servait un petit peu d'aspirateur de ces marins et qui les renvoyait ensuite à partir de Marseille vers toutes les mers du monde.
Alors est-ce que ces capitaines restent fixés à Saint-Tropez ou alors ils se disséminent au niveau de la France ? Comment ça se passe ?
Alors comme en fait, c'est pas tellement au niveau de la France, c'est je dirais au niveau du monde. C'est-à-dire que le port de départ c'est Marseille, donc certains vont se fixer à Marseille, même si on voit dans les archives très, très nettement qu'ils restent inscrits au quartier maritime de Saint-Tropez. Un capitaine des messageries maritimes qui fait la ligne d'Extrême-Orient est inscrit à Saint-Tropez et pas à Marseille. On aurait pu croire que pour des facilités administratives, ils allaient partir comme ça, s'inscrire à Marseille, habiter à Marseille définitivement. Certains habitaient à Marseille, mais ils gardaient toujours une propriété et ils étaient à Saint-Tropez. Donc finalement, ils n'allaient pas dans le reste de la France, sauf les caporniers qui partaient du Havre ou de Dunkerque, mais il y en avait très peu, une quinzaine à Saint-Tropez, on en a recensé pour l'instant. Mais par contre, certains s'installaient à l'étranger. Tout à l'heure, on pourra vous parler d'Annibal Bérard, et Annibal Bérard a vécu plusieurs années à Zanzibar, par exemple.
D'accord. Alors quel est l'intérêt de créer une telle association, Monsieur Prosperini ?
L'intérêt, justement, est de reconstituer l'histoire de tous ces capitaines au long cours. On a peu d'archives sur ce qui s'est passé, sur notamment l'école d'hydrographie, puisqu'à tel point que pendant quelques années, on n'a plus trace de son emplacement. On est en train de le rechercher. Et l'histoire de ces capitaines de long cours, dont on ignore beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'histoires qui se sont racontées. On a peu d'écrits on a peu de documents, alors on essaye de les rassembler. Donc on a eu l'idée de réunir toutes les familles, tous les descendants, chacun détenant soit des photos, soit des documents, soit un livre de bord, soit une histoire, quelque chose. On va essayer de rassembler tout ça afin de reconstituer l'histoire des capitaines de Loncourt de Saint-Tropez. Voilà le but de l'association.
Alors comment vous avez fait pour... Parce que là je vois quand même, il y a quand même pas mal de personnes dans cette association en ce moment, enfin dans la réunion de ce soir. Comment vous avez fait pour contacter ces gens et quelle a été la démarche à ce niveau-là?
Alors, la méthode au départ a été assez simple. L'histoire commence à Toulon, où à partir des registres de l'inscription maritime, j'ai constitué des listes de capitaines. Donc il m'a fallu plusieurs séances, plusieurs semaines pour rassembler à peu près 320 noms pour le 19e siècle de capitaine de Loncourt. Et ensuite j'ai commencé à rechercher les familles. Alors certaines, comme Madame Ducot qui est ici présente, je l'ai rencontrée par hasard. Elle était venue aux archives pour toute autre chose. Et puis d'autres familles, je les connaissais comme Jean-Louis, voilà. Mais sans savoir forcément que c'était la famille d'un capitaine. Et après, j'allais voir les uns les autres qui me donnaient leurs renseignements. Je recoupais avec les archives officielles de Toulon. Je reconstituais les carrières. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et ensuite, c'est d'autres familles qui m'ont mis en contact avec d'autres familles de capitaines, d'autres descendants. Monsieur Chazy qui est là ce soir, je ne le connaissais pas jusqu'à 3 heures en arrière. Voilà, j'ai fait sa connaissance. C'est aussi le but de se rencontrer, d'échanger.
Alors comment sont perçus justement dans ces familles-là? Je vois des descendants de ces familles de capitaines au long cours. Comment sont perçus justement maintenant ses ancêtres capitaine Loncourt?
Eh bien, c'est...
Ah, ça, c'est Monsieur Chazy.
Oh, je vous en prie. C'est d'une manière qui est quand même un peu, j'allais dire, rocambolesque, parce que au sein de ses familles, par exemple, mon ancêtre, Auguste Souquel, lui, était le troisième fils d'une famille de riches négociants et soyeux à Lyon. C'était les gens qui fabriquaient les pantalons rouges, les pantalons garances de l'armée française à une époque où l'armée était quand même relativement importante. Bien. Ils étaient 3 frères et 2 sœurs. L'aîné avait hérité de l'entreprise. Le second, comme on faisait à l'époque, allait rejoindre l'armée, est allé d'ailleurs se faire tuer pendant la guerre du Transvaal avec le président, aux côtés du président Kruger. Mais lui, on le destinait, comme on faisait à l'époque dans les bonnes familles, on l'avait quand même un peu envoyé dans les écoles, j'allais dire, bien pensantes et religieuses. Ce qui fait qu'à 14 ans, il a quitté la famille, il a quitté l'école et il a disparu de la circulation. Il a disparu de la circulation, il est parti à Marseille, il s'est engagé comme mousse à 14 ans, mais en ayant quand même un bagage intellectuel important pour l'époque. Et ce qui fait qu'il a navigué à l'époque où, surtout en Extrême-Orient, puisque, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voyager, mais vous allez par exemple à Canton ou à Shanghai, vous avez encore les concessions où on vous montre encore, enfin j'y étais l'année dernière, les concessions françaises, hein, puisque c'était des ports de commerce qui étaient carrément au bord du fleuve ou de la mer. Et alors, il a eu une chance inouïe. Lors d'un séjour entre Canton et Singapour, vous savez, on parle toujours maintenant du détroit de Malacca où il y a des pirates. Et à cette époque-là, déjà, les cargos, on armait l'équipage pour passer le détroit de Malacca. Et il semblerait que par un concours de circonstances et tout, comme c'était quelqu'un d'armé d'un caractère bien trempé, il soit arrivé à empêcher des pirates de monter à bord. Enfin bref, et l'armateur, comme le capitaine du navire, lui avait été extrêmement reconnaissant parce que ça aurait été une perte financière très importante. De retour à Marseille, son armateur s'est rendu compte que c'était quand même un garçon de bonne famille, qui avait une certaine culture, et progressivement, eh bien, il a monté, comme on dit, à la force du poignet, les différents grades de la marine, à une époque où, pour quelqu'un qui venait de l'intérieur, qui n'était pas inscrit maritime, ce n'était pas évident, quoi. Et il est devenu... torpésien, normalement, enfin, d'adoption, comme on disait chez nous, c'était les gens de Saint-Torpès, mais c'était pas, maintenant c'est Tropez, enfin bref. Et ça a été très intéressant parce que, Il a été malade, il est resté à Marseille et il a passé le brevet de pilote du port de Marseille, ce qui était une concrétisation à l'époque pour les pilotes au long cours, c'est-à-dire que les navires arrivaient, rentraient dans le port et c'était le pilote du port qui rentrait le navire dans le port. Et il y avait encore une spécialité en plus, c'était le pilote lamaneur, c'est-à-dire qu'il prenait la responsabilité de la cargaison en plus de la cargaison du navire, ce qui faisait que c'était pas évident. Mais enfin, le plus beau des navires qu'il a fait rentrer, c'était le yacht du roi de Yougoslavie, qui est rentré dans le port. Il lui a fait descendre la coupée, il l'a laissé monter dans le carrosse qu'il servait, et 3 minutes après, le roi de Yougoslavie a été assassiné sur le quai de Marseille. Donc dans la famille, on garde pieusement une boîte de cigares que lui avait offert le roi de Yougoslavie avant de descendre à bord, parce qu'il avait bien amené son bateau. Le malheur, c'est qu'il est venu comme professeur d'hydrographie à Saint-Tropez. C'est lui qui a constitué le domaine Saint-Joseph. Saint-Joseph, pourquoi ? Parce que dédié aux charpentiers de marine. Et il est retourné à Marseille périodiquement pour faire rentrer des bateaux. Et là, un jour, après avoir essuyé toutes les tempêtes, tous les typhons dans le sud-est asiatique, toutes les maladies possibles et inimaginables, eh bien, il a été empoisonné par des moules dans le port de Marseille. Donc il est certain que c'est le genre d'histoire dans les familles il y a une tradition orale qui fait que ce genre de choses. Je passe sous silence tout un tas de détails parce que je suppose que vous êtes prise par le temps et puis que ces dames ont aussi quelque chose à dire.
Est-ce qu'on peut considérer justement ces capitaines comme des aventuriers ?
Je crois, même si à l'époque beaucoup de gens voyagent, prendre la responsabilité d'un bateau, faire un tour du monde ou partir sur un paquebot jusqu'au Japon, revenir, il y avait quand même peu de gens qui le faisaient. Et finalement, ces voyages-là les fatiguaient, ils tombaient malades, beaucoup mouraient jeunes. Mais dans les familles aujourd'hui, on retrouve quand même beaucoup de souvenirs. Ce qu'on appelle des chinoiseries, mais qui sont parfois des très beaux, soit des beaux meubles, soit des beaux vases, etc. Et ça, c'est un peu le symbole. Je suis même allé dans une famille de pêcheurs. On a même mon oncle, non, il n'était pas au long cours, mais il était pêcheur. Mais là, on a quand même un vase chinois. Alors, au bout d'un moment, il me dit, oui, mais en fait, parce que l'été, il pêche, et l'hiver, il y avait moins de boulot, il faisait pas beau, il s'engageait au messager maritime et partait. Donc, on a quand même des carrières où le voyage, ça faisait rêver. Souvent, dans les années 40, 30, même 50, 60, partir à l'armée, voyager un peu, c'était la seule solution pour beaucoup de... Donc là, les marins, c'était familièrement ce qu'ils faisaient depuis toujours. Ils vivaient une partie de leur vie à l'étranger, et que ce soit à Madagascar, à Zanzibar, en Chine, des familles ne sont pas revenues. Amis de Tropéziens aujourd'hui qui vivent à Tahiti, d'autres au Chili, etc. Donc c'était vraiment, je crois, des aventuriers parce qu'ils vivaient des événements, soit un naufrage, une tempête, une attaque de pirates ou une attaque lors d'un naufrage de tribus noires sur la côte. Si c'est pas ça l'aventure, voilà. Donc je crois, oui, les Tropéziens étaient assez aventuriers.
Alors Madame Hélène Ducot, vous êtes descendante de quel capitaine au long cours ?
De plusieurs. Tant par ma famille maternelle que par ma famille paternelle, puisque nous sommes tous de Saint-Tropez, ils étaient tous marins. Donc du côté maternel, je descends de Hannibal Bérard, qui a commencé, bon, capitaine avant, je ne sais pas comment il a commencé, qui a fini armateur à Marseille, associé aux Rousses de Fraissinet, enfin son armateur. Et du côté paternel, c'était les Bernard qui étaient marins. Et un Bernard a épousé une jeune fille, Murillo, qui était marin aussi du côté de Vintimille, de Finale et d'Héligourd, qui était venue se fixer à Saint-Tropez. Et le frère de mon arrière-grand-mère était le capitaine Murillo. Donc, des deux côtés, mes ancêtres étaient en gros beaucoup marins.
Beaucoup marins, oui. Voilà. Et quels en sont les souvenirs qui sont arrivés jusqu'à vous, justement ?
Arrivés jusqu'à moi, j'en ai alors tellement, de telle quantité que ça sera pour une autre fois, parce que en province, on a la chance d'avoir de très grandes maisons et les familles ne bougent pas, donc les souvenirs restent. Les maisons ont 500 mètres carrés au sol, sur 3 étages. On consacre tant de pièces, on entasse. Les enfants ont interdiction d'y aller, rien ne s'abîme. Et 5 générations après, on les retrouve, on les a toujours. Donc on a beaucoup de papiers, de choses écrites, d'objets, de meubles. On a beaucoup de choses. Monsieur Pavlidis est très au courant.
Ce que Mme Ducos n'a pas dit, c'est que la famille possède un très très beau fusil nacré, un fusil de parade en fait, que Annibal Bérard devait remettre au sultan à Zanzibar comme cadeau de la maison Roux de Fraissinet. Et puis je crois que le sultan...
Quand il est arrivé à un de ses derniers voyages, le sultan était mort et son fils ayant été élevé en Angleterre, ayant fait des études de grandes écoles anglaises, avait fait un accord avec les Anglais. Donc mon arrière-grand-père est resté avec ses cadeaux qu'il n'a pas offerts au fils et ils sont restés dans la famille.
Ce qui est intéressant, c'est que la plus vieille photo de Tropézien retrouvée à ce jour date de 1864 et c'est une photo prise à Zanzibar, justement d'Annibal Bérard. Je trouve que c'est assez symbolique de cette présence des Tropéziens dans le monde parce qu'on aurait pu trouver une photo de Tropézien à Saint-Tropez, tout simplement. Ben non, elle est conservée à la Bibliothèque nationale et il est en train de boire, c'est la légende de la photo, un vermouth avec un explorateur qui s'appelait Grand Didier, le consul de France à Zanzibar. Voilà.
Ah oui, tout à fait. Extraordinaire. Et Madame XVI, alors Madame XVI est donc descendante de quel homme ?
Descendance de Monsieur Charles XVI, qui était un ancien capitaine de Longcourt, et donc était mon arrière-grand-père. Et c'est sur des souvenirs que me relatait mon père, qui était lui-même officier de la marine marchande, et qui a été élevé petit par ses grands-parents, et qui disait toujours, moi je veux, il était très curieux, et il voulait toujours voir ce qui était au-delà de l'horizon, il disait toujours. Et il a été élevé par notamment, c'était l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas beaucoup la radio, et il était nourri par les histoires de ses grands-pères. Et il était donc très curieux et tous les soirs il se couchait avec une histoire différente. Et après, il me l'a raconté aussi quand j'étais plus petite et moi, ça m'intéresse énormément. Et donc, notamment, je racontais à Laurent une fois précédente que ce grand-père Charles, le grand-père donc de mon père, était parti. C'était une famille nombreuse, il était très très pauvre. Et c'était l'aîné, je crois, il était parti, il avait 10 ans. Il était parti comme mousse, il était parti 4 ans. 4 ans, et il avait donc revu sa mère, il avait 14 ans, hein, et il était parti, je crois, en Indochine, et ils avaient crevé la faim à bord du bateau, ils étaient plusieurs petits mousses, et un jour, le cuisinier du bord avait fait des brioches, c'était le matin, et les brioches sentaient bon sur le pont. Tous les petits, notamment un, l'avait pris, hein, et puis du fait, à midi, le commandant avait vu qu'il n'y avait plus de brioches, bon. Et pour faire avouer l'inavouable que personne ne voulait avouer, et ben il leur fait manger à tous, boire à tous un vomitif. Et puis, bien sûr, le coupable, ça a vite été découvert. Donc, voilà, c'était des anecdotes. Je crois qu'après, ils avaient été un petit peu fouettés, mis dans un bidon de sel, enfin, un truc un petit peu très, très dur pour ces pauvres gamins.
C'est
horrible.
C'est
des trucs horribles.
Est-ce que je voulais savoir, moi, par rapport au capitaine au long cours, quel est le pourcentage de gens qui s'engageaient dans la marine impériale, royale, nationale?
On ne le sait pas. La seule chose que l'on sait, et moi j'en ai des traces, par exemple pour l'Auguste, notre aïeul, c'est qu'ils étaient régulièrement appelés à faire des périodes dans la marine nationale. Ils utilisaient les compétences des capitaines de long cours quand ils en avaient besoin.
D'accord.
Et ils étaient appelés plus ou moins régulièrement pour faire des périodes. On a retrouvé, oui.
De toute manière, dans tous les corps de métier, maintenant, on rappelle ce qu'on appelle les réservistes, et automatiquement, en temps de guerre, tous les navires marchands se retrouvaient transformés comme navires auxiliaires, et ou navires transportant soit de la nourriture, soit des munitions ou autres. Donc c'était tout à fait normal qu'on convoque tous ces officiers à des périodes. Moi, personnellement, je suis dans l'infanterie, enfin aéroportée. À mon âge, j'ai 5 galons, mais j'ai encore fait ma dernière période il y a 5 ans, quoi. Bon, bien qu'il n'y ait pratiquement plus d'armée.
On a retrouvé un diplôme de surveillant sémaphoriste dans la marine nationale de M. Souquel. Bon, ils utilisaient les compétences, non seulement le commandement, mais les compétences de navigation. Oui. Parce que c'était, par principe même, de très bons navigateurs. Donc, en période de crise ou de guerre, ils les utilisaient. Et régulièrement, on trouvait des périodes. Pour M. Souquel, j'en ai trouvé. Madame me disait qu'elle a retrouvé des papiers également. Ils étaient régulièrement appelés pour faire des périodes militaires.
Mais on ne sait pas quel est le pourcentage entre ceux qui font juste une carrière purement militaire et ceux qui font une carrière de commerce, en fait.
Non, alors pour Saint-Tropez, il y a très très peu d'officiers. Il y a eu pas mal d'officiers, en fait, pendant la Révolution et l'Empire, parce qu'on va dire que tous les marins du commerce ont du mal à naviguer à cause de la course des flottes ennemies. Donc ils passent tous quasiment dans la marine de la République et puis après de l'Empire. Mmh. Et quand les guerres finissent en 1814-1815, ils vont repasser au commerce. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a la génération suivante, on a encore une vingtaine peut-être, mais sur 500 marins tropéziens, c'est peu, une vingtaine d'enfants d'officiers de la République et de l'Empire qui font carrière encore dans la marine de guerre. Ouais. Et après, ça tombe. Ça repasse dans le commerce naturellement.
D'accord. Voilà. Mmh.
Mais sinon, on a vraiment peut-être 5-6 officiers. À un moment donné, c'est 5-6 officiers dans les années 1830-1840. Bon, il y en a un frère. Là, on a le porté d'un frère Bode, d'un capitaine Bode, qui a eu un frère qui a fait une carrière dans la marine royale et qui a participé. Il faisait partie de l'équipage de l'état-major de 4 personnes qui a ramené l'obélisque sur la place de la Concorde. Après, on trouve, sur la Belle Poule, qui a ramené les cendres de Napoléon, il y avait 12 tropéziens. Mais ça, voilà, comme Jean-Louis disait tout à l'heure, ils faisaient leur période. Voilà. Donc vraiment, je dirais schématiquement, sur 10 tropéziens, donc on en a 6 qui sont à la mer. Sur les 6 à la mer, il y en a un à la pêche, un au chantier. Et après, il y en a 4 au commerce. Et de temps en temps, il y en a un qui est dans la marine de guerre. Mais c'est peu. Les plus nombreux, c'était pendant la Révolution et l'Empire. Alors, ils passent tous, mais pour leur service. Ils font 4 ans, 5 ans, et rappeler, c'est une guerre.
Alors, qu'est-ce que vous envisagez, là, à court terme, au niveau de l'association ? Trouver d'autres personnes ? Trouver plus de renseignements ? Comment...
dans un premier temps, nous en avons déjà trouvé pas mal. On va demander à ces personnes de rassembler tous les souvenirs, de d'écrire tout ce qu'ils ont, de nous communiquer s'ils ont des documents. On va en tirer des copies, on va tirer des photocopies, rassembler tout ça. Créer, comme le disait tout à l'heure Laurent, au besoin, on va nous-mêmes créer une petite revue, un petit journal d'informations que l'on va diffuser, que l'on va vendre, que l'on va donner aux membres de l'association. Et puis, petit à petit, connaître d'autres personnes. On espère que l'association va faire boule de neige, c'est-à-dire que, tiens, oui, mais je connais quelqu'un qui a eu un parent, etc. Voilà, on espère là-dessus pour faire grossir l'association, surtout grossir nos connaissances, rassembler les connaissances sur, bon, bien sûr, les capitaines de long cours, mais en gros, c'est surtout la marine marchande issue de Saint-Tropez. Parce qu'il n'y a pas que, il peut y avoir, comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir des matelots, il peut y avoir tout ce qu'a pu connaître la marine marchande sur Saint-Tropez. Ça va peut-être, même un jour, pas le cabotage, c'est pas le but, mais qui sait. Parce que les familles, et Laurent vient de le dire, dans ma famille ça a été le cas, vous aviez un parent qui était capitaine de long cours, puis un autre parent qui faisait du cabotage, ils avaient des tartanes et ils faisaient du commerce local. Comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de camion à l'époque. Donc les bateaux, ils partaient de Saint-Tropez, ils allaient à Sainte-Maxime transporter du sable, puis de là ils revenaient transporter des tonneaux, ils allaient à Saint-Égulf, à Saint-Raphaël pour transporter des tonneaux de vin, etc. C'était le cabotage. Donc vous aviez le frère qui faisait le capitaine de long cours, l'autre frère il faisait le petit cabotage ou le grand cabotage. À l'époque, la mer le nourrissait à peu près 8 personnes sur 10, en gros, peut-être un petit peu exagéré, mais entre les commandants, entre les charpentiers marines, les pêcheurs, tous ceux qui vivaient de l'industrie de la mer, parce que les chantiers, il y en avait un paquet d'ouvriers qui travaillaient dessus. Et comme disait madame tout à l'heure, juste raison, mais vous aviez les gens, comme c'était des bosseurs, des super bosseurs. Mais ils commençaient peut-être comme ouvriers charpentiers. Puis petit à petit, ils apprenaient, ils avaient des connaissances. Et ils finissaient capitaine de long cours. Il y en a qui ont fini capitaine de long cours en ayant commencé charpentier marine.
Ah oui.
Ah, c'était à l'époque, ils travaillaient énormément. Pas comparé à maintenant, mais bon.
À partir de quel moment ça a décliné, finalement, toute cette activité ?
Alors, en fait, c'est la fin du 19e, début du 20e, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est le développement du réseau routier et du réseau ferré, qui fait que le camion et le train vont remplacer progressivement les bateaux de charge, notamment les tartanes qui parcouraient la côte. Donc les dernières tartanes, déjà beaucoup disparaissent pendant la guerre 14-18, et puis après c'est les dernières, c'est vraiment 40-50, voilà, mais vraiment ça c'est une ou deux qui traînent. Donc ça c'est un premier facteur, c'est le réseau routier et le réseau ferré. Ensuite, pour Saint-Tropez, il y a un autre facteur qui est que l'école d'hydrographie ferme en 1914. Donc les derniers capitaines qui en sortent finissent leur carrière dans les années 40-50. Ils décèdent vers 1960, peut-être les plus tard, 60-65. Donc là, Quand il y a une école dans une ville, la ville en profite en premier. Quand l'école s'éloigne, que d'un coup, pour aller à l'école, il faut aller à Toulon, il faut aller à Marseille, déjà financièrement, c'est plus difficile. Quand vous avez un élève qui était de famille modeste, mais qui était bon à l'école, hop, on l'a détecté, aller à l'école qui était d'hydrographie, qui était gratuite à Saint-Tropez, c'était très facile pour lui. Quand c'est à Toulon ou Marseille, ah ben déjà, il faut trouver des financements, donc ça s'abandonne. Et puis, il y a eu le développement, à la fin du 19e et au début du 20e, d'industrie. Il y a eu l'usine des torpilles, qui se développe là. Donc, ben, les gens qui partaient, finalement, avaient des métiers très, très durs en mer. S'ils pouvaient avoir un métier sur place, c'était intéressant. L'usine des câbles, également, qui était à la baie des Canebiers, qui a duré que 35 ans, mais en même temps... Elle a permis d'embaucher pas mal de tropéziens. Donc là aussi, une diversification. Et puis, on croit tous que... l'image, c'est que Saint-Tropez se développe avec Brigitte Bardot dans les années 50. Mais en fait, c'est une ville très touristique dès le début du 19e siècle. Entre 1918 et 1940, par exemple, il se tourne un à deux films par an. Colette est venue à Saint-Tropez dans les années 30 et elle quitte Saint-Tropez, elle ne peut plus voir Saint-Tropez dans les années 30, vers 36, 37, parce qu'il y a trop de monde à Saint-Tropez. Il y a déjà les embouteillages, voilà. Donc le tourisme se développe également. La ville est classée en 1928 pour son patrimoine architectural, elle est inscrite au titre des sites, hein, ce qui fait que lorsque les Allemands feront sauter la ville en 44, eh bien, le port sera reconstruit à l'identique. Il n'y aura pas une barre d'immeubles comme à Toulon, par exemple. On va reconstruire parce que les Tropéziens le voulaient, mais parce que la loi l'exigeait aussi et que les architectes se sont mobilisés pour ça. Donc, l'activité touristique qui se développe. Dans les années 20-30, il y a plusieurs centaines de bateaux de plaisance dans le port de Saint-Tropez. Donc, c'est un tas de facteurs qui font que, finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un peu rêver, le métier de marin, mais c'est un métier qui était très, très dur. Tout à l'heure, on l'a dit, beaucoup de capitaines mouraient jeunes. Alors, les marins, les matelots, c'était pareil. Et que finalement, rester à Saint-Tropez, c'était peut-être aussi pas si mal pour certains.
Oui, monsieur Chazy.
Il
ne
faut même pas oublier que le dernier gros chantier qu'ont fait les Tropéziens, ça a été la plage de Cannes. Cannes est une plage en galets et pendant une dizaine d'années, les dernières tartanes de Saint-Tropez allaient draguer à Pamplonne le sable, l'emmenaient pour faire la plage de Cannes. Ce qui a été, si vous voulez, une fin honorable pour les derniers grands caporniers, les derniers capitaines. Ils conduisaient plus des grands cargos mixtes. Ils finissaient leur jour tranquillement en faisant du cabotage et puis ils transportaient du sable, ce qui est quand même pas très périssable. Quoi.
Oui. Alors ça, c'est assez intéressant, effectivement, parce que même pendant leur carrière, ça reste à étudier et à développer. Hein. Mais on le détecte assez facilement. Entre deux grandes campagnes, au long cours vers la Chine ou vers le Cap Horn, lorsqu'ils rentraient et qu'ils avaient un mois ou deux de repos, on les voit partir au cabotage sur la côte. On pourrait se dire quand même ils ont quand même des bons salaires pour pouvoir tenir 3-4 mois sans naviguer. Donc je pense qu'il y a une passion de la mer et effectivement, on a même trouvé des capitaines au long cours qui, entre deux campagnes, s'inscrivent très officiellement pour faire une campagne à la pêche, petite pêche côtière. Si c'était que pour le délassement, que pour le plaisir, ils ne se seraient pas inscrits. Leur bateau de plaisance serait parti. Et non, on les voit très officiellement. On se dit, c'est le cas d'Animal Bérard. Animal Bérard, entre ses campagnes à Zanzibar et son métier, son second métier d'armateur, il fait la petite pêche. Alors qu'il avait naturellement un salaire qui lui permettait de ne pas partir à la pêche pendant quelques semaines. Donc vraiment, ils sont rivés à la mer. Hein. C'est assez extraordinaire. Donc effectivement, ils passaient très facilement ensuite au cabotage. Et c'est vrai qu'ils allaient prendre le sable, alors soit légalement au fond du golfe, soit des fois plus illégalement à Pampelonne. Et pas mal d'immeubles, de quais, effectivement. Cannes, Nice, Monaco, les plages, c'est effectivement du galet. Hein. Donc le sable arrivait d'ici.
C'était pas la plage de Pamplonne de maintenant, hein. C'était des marécages, c'était des bambous, c'était des moustiques, c'était... Personne n'osait mettre les pieds à Pamplonne à l'époque, sauf eux.
Et certains bateaux étaient d'ailleurs tellement remplis qu'ils coulaient. Il fallait trouver le juste milieu, parce que naturellement, le seau, on va dire, le couffin, la couffe de sable, on remplissait la tartane, jusqu'au moment où on pensait que c'était bon, il fallait partir, il ne fallait pas qu'il y ait une tempête en mer, il fallait pas que...
Ouais,
et c'est assez intéressant, parce que la tartane, il n'y avait pas de quai. Donc la tartane était reliée à ses chouets, on va dire, hein, et était reliée à la plage par des grandes planches qui servait d'espèce de ponton. Mmh. Et donc, il fallait une cadence de marche entre la montée et la descente. Les planches vibraient.
Oui,
et donc, il y avait d'abord priorité à celui qui avait la couffe pleine. Donc, s'il se croisait, celui qui avait la couffe vide en descendant, il sautait à l'eau. Il sautait à l'eau pour ne pas se gêner. Et il fallait avoir une cadence pour que le pas tombe sur la planche au bon moment pour pouvoir remplir le bateau sans avoir trop d'accident, sans tomber à l'eau. Et ils avaient donc tous la couffe sur l'épaule et ils avaient un tissu, un foulard autour du cou pour tenir la couffe et se protéger le cou, la coupure.
Oui, oui.
Et souvent, certains avaient des grosses cales là. Ils étaient très musclés d'un côté du cou. Et les Lesters sont restés assez célèbres parce qu'après, ils faisaient un peu la fête à Saint-Tropez avec les touristes, les visiteurs qui venaient danser comme ça dans les balles. Donc, il est bien. Il y a des histoires comme ça qui tournent.
Ils avaient également des mâts de charge. Les tartanes avaient des mâts de charge qui étaient manipulés à la main. À la main, il y avait des poulies. Et un palan, il y avait un double palan, un double poulie, et à la main, ils chargeaient les couffes comme ça. Les couffes, c'était des sacs. Vous voyez les couffins de maintenant ?
Oui, oui, oui.
Bien, c'était des tressés, mais c'était cylindrique et gros comme ça, la table. Ça faisait le volume de cette table, imaginez-vous ça. Vous aviez deux anses, et vous passez le crochet dessus. Allez,
d'accord.
Il a soulevé avec un mât de charge comme ça, il poussait, ensuite ils étaient à 3 ou 4, il poussait le mât de charge, il le faisait pivoter pour monter dans le bateau, il redescendait dans la cale du bateau. Mm-hmm. Et quand le plat bord arrivait à ça au-dessus de l'eau, ah, il s'arrêtait, il faut partir. Et s'il y avait une tempête en cours de route, on ne trouvait jamais la tartane.
Enfin, il faut reconnaître qu'à cette époque-là, les hommes n'étaient pas bâtis, dirons-nous, de la même manière. De nos jours, c'était des hommes qui avaient des bras comme nos cuisses, alors je vous parle pas des cuisses qu'ils devaient avoir.
J'imagine.
Et puis, comme je disais justement à notre historien, pour voir la nature des navires de l'époque, il est très intéressant de regarder, lorsqu'elle est ouverte, ce qui n'est pas souvent, les ex-voto de la chapelle Sainte-Anne.
Oui.
Parce que ce sont souvent des dessins un peu naïfs, mais il y en a qui sont très, très intéressants sur le plan de l'architecture navale. Et puis il y a un deuxième point qui est beaucoup plus intéressant et qui échappe souvent aux profanes, c'est la nature du matériel qui a été utilisé pour faire ces ex-voto. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a des cadres qui manifestement entoure des dessins naïfs qui ont été faits à bord, mais qui ont dû être achetés. C'est du palissandre ou c'est du texte, et ce sont des cadres qui viennent le plus souvent ou d'Extrême-Orient ou de la côte est africaine.
Alors effectivement, c'est peu connu, mais il y a par exemple à Sainte-Anne, il y en a 5, mais à La Ciotat, il y en a au moins un, et à Antibes, il y en a au moins un, des ex-voto qui sont peints en Chine. C'est-à-dire que les marins qui sont aux messageries maritimes sur la ligne Extrême-Orient ont toujours les mêmes escales. En Chine, c'est Shanghai et Hong Kong. Et l'école de peinture chinoise, naturellement, est très connue. Elle est encore très connue aujourd'hui. Elle se développe aujourd'hui. Et ces gens-là, lors de leur escale, commandaient des tableaux aux peintres chinois qui représentaient leur navire. Alors, soit effectivement vraiment pour remercier, pour avoir échappé à une tempête, soit simplement pour avoir chez eux ou déposer à Sainte-Anne un tableau. Et alors, c'est assez marrant parce qu'il y en a un notamment où le chinois a recopié le texte en français, donc il ne sait pas écrire le français. On peut imaginer que le marin lui a écrit comme il a pu ou s'il sait bien écrire, et le chinois recopie. Et comme ça, on a à Sainte-Anne un navire, et la dédicace, c'est que le navire, il remercie Sainte-Anne pour avoir échappé à un siphon. Donc en fait, c'est un typhon, voilà. Et là, c'est amusant de voir ça. Là, on comprend très bien que l'artiste chinois... Et très récemment, une association à Saint-Tropez qui a acquis un tableau d'une école chinoise représentant un navire des messageries maritimes. Le navire s'appelle le Sagalien, et le peintre chinois a écrit ça. Sachalien, le G ne s'est pas terminé, ça s'est arrêté au C. Voilà.
Oui.
Et ces tableaux-là existent également et ça témoigne effectivement de la présence de l'école chinoise dans les chapelles provençales au 19e.
Bien. Mais écoutez, c'est gentil tout plein d'avoir participé à cette émission. Nous, on va essayer de contacter, parce que je ne sais pas si vous savez, mais sur Internet, vous avez des forums de discussion de la messagerie maritime. Et il y a beaucoup de capitaines au long cours qui discutent de leurs propres expériences et autres. Et nous, on va leur faire faire un petit coucou là, avec votre association pour savoir s'ils ont des parents, des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont été officiers de la marine marchande et qui puissent vous contacter pour donner des petits renseignements.
Très volontiers.
Voilà. Je vous remercie tous.
Merci.
Et puis, bien, écoutez, je prends rendez-vous pour l'année prochaine pour un compte-rendu de, et des avancées de l'association.
Très volontiers, très volontiers.
Très volontiers.
Merci bien, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Autre radio, autre culture, à bientôt. Autre radio, autre culture.